Alors, bonsoir. Donc, on commence ce cycle des 7 mots pour comprendre notre temps. J'aurais préféré ne pas commencer moi-même, mais bon. par ce mot que j'ai choisi, l'authenticité. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que qu'est-ce que je veux à ce mot? Pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Il est bien innocent ce mot, hein. Pourquoi le soupçonner? Eh bien, précisément parce que il fait peut-être partie de ces mots dont Jean-Noël Dumont nous parle dans son petit dans le programme, hein, ces mots que l'opinion impose et qui peuvent peser sur nos esprits, puisque c'est bien hein, des leitmotivs qui revient sans cesse. Hein, le leitmotiv, vous savez, c'est un terme musical qui désigne un motif qui revient dans une œuvre. Eh bien là, c'est un peu la même chose. L'authenticité, c'est le leitmotiv de notre époque. S'il n'y a pas un domaine qui semble épargné par sa petite mélodie lancinante, hein, du marketing à la politique, en passant par la vie intime, on célèbre la transparence, le naturel, la sincérité, l'honnêteté. Alors si je fais un petit tour de piste, je me suis amusée, hein, en commençant par le marketing, Roger Cavaillès, l'authenticité au service des peaux délicates, Loïc Raison, l'authentique cidre breton, pour les femmes, IKKS, je pense que ça ne parlera pas du tout aux hommes, l'authenticité absolue, c'est ces vêtements qui sont découpés de manière franche, sans pas du tout surpiqué ni quoi que ce soit, sans parler bien sûr des authentiques sablés de la mer Poulard. Et puis s'il y a une marque qui mise sur l'authenticité, c'est bien sûr la laitière et ses recettes authentiques et généreuses. Hein. Toutes les publicités de la laitière, je m'y suis refaite pour m'amuser, reposent sur une idée unique répétée dans chaque spot, vendre des yaourts entiers dans des pots en verre, comme la crémière du célèbre tableau de Vermeer qui réapparaît dans toutes les publicités, pouvait les faire en 1658. Autre symptôme, hein, toujours dans la consommation, la passion du terroir, du vintage, les appellations d'origine contrôlée, voilà, j'en passe. Alors, plus qu'une stratégie marketing, continuons notre tour de piste, on va retrouver cette obsession dans l'espace public. Pensons à quelque chose comme Wikileaks, ce site internet qui se propose, comme le dit son fondateur, une transparence planétaire, et donc qui divulgue de manière anonyme, identifiable, sécurisée, des documents militaires, sociaux, politiques, censés être cachés. Mais plus que l'espace public, c'est l'homme politique, hein, qui, de manière un peu inattendue, va revendiquer cette authenticité. Inattendue parce qu'elle pourrait lui être fatale. On a souvent allié la politique avec le secret, la dissimulation. Mais notre président fait de l'authenticité sa marque de fabrique, je le cite. « L'authenticité se lit sur mon visage, je ne triche pas, je ne truque pas. » On ne sait toujours pas le nom de sa fille, mais... Ouais, non, ce n'est pas sûr que ce soit ça. Donc, vous voyez, l'homme politique aussi se montre nu, hein, en jogging, il dit les gros mots publics, il avance sans justement l'attirail de la rhétorique pour se montrer tel qu'il est vraiment. On voit enfin l'homme sous la fonction. Mais plus que le marketing, plus que la vie publique, plus que la vie politique, c'est surtout dans la vie intime et privée que cette exigence se fait la plus pressante, et parfois même écrasante, tyrannique, puisque les appels réitérés à être soi-même, à rester naturel, à réaliser ce que l'on a de propre ou encore à se retrouver sont incessants et changent parfois même la nature de certaines expériences. Et c'est ainsi qu'en amour, par exemple, l'adultère jusque-là décrié va devenir au nom de la sincérité, eh bien justifiable. Je t'ai trompé, parce que je ne t'aimais plus. J'ai enfin écouté mon vrai désir, mon désir le plus intime, et j'ai troqué notre vie contre une autre qui me ressemble plus. Comme si la vraie fidélité, finalement, c'est celle que l'on se doit à soi et pas forcément celle qu'on doit aux autres. Et tout se passe comme si, dans ce champ-là, le moi intime de chacun était comme enfermé dans un cachot, recouvert par la vie sociale, par les conventions, par les codes en tout genre. et qu'une vie réussie, une vie pleinement accomplie, devait s'employer à libérer ce moi, à l'exprimer dans ce qu'il a de singulier. Il y a là une sorte de lutte incessante entre l'intérieur, l'extérieur, le noyau et l'enveloppe de notre être, qui génère une forme de souffrance. Et cette conception, on le verra, repose sur un certain nombre d'oppositions qu'il nous faudra discuter justement et que j'ai déjà finalement évoquées. Opposition entre l'intérieur, l'extérieur, le dedans, le dehors, le naturel, l'artificiel, l'inné, l'acquis, le singulier, le banal, et finalement le moi et la vie sociale. Et être authentique, ce serait parvenir à passer la frontière, à libérer le noyau de l'enveloppe. Alors évidemment, l'authenticité comme projet de vie est en fait assez un impératif assez récent, et le sociologue Norbert Elias, dont je parlerai un peu plus loin, dans son ouvrage dont je me suis inspirée, La société des individus, montre que la revendication d'une vie propre et singulière n'a pu se faire que quand deux exigences se sont trouvées réunies. Tout d'abord, la mise en place d'une société fortement différenciée, où la division du travail s'est accrue, où il y a plusieurs destins possibles, une multiplicité. L'individu a pris conscience de cette possibilité et de cette nécessité de se différencier. Et parallèlement, seconde exigence de cette société qui est devenue de plus en plus complexe, la centralisation du pouvoir avec la construction de l'État moderne, l'individu s'est peu à peu dégagé de l'empreinte communautaire, de la famille, du clan, et a dû intérioriser lui-même un certain nombre d'interdits que justement ses organes ne lui imposaient plus, mais qu'il recevait de plus haut et qu'il a dû se donner lui-même pour se coordonner avec l'ensemble de la vie sociale. Et cette société a forcé, si vous voulez, un très haut degré de réserve, de contrôle de soi, et donc elle a produit, à travers ces deux exigences, une société très différenciée, une société qui exige des individus qu'ils prennent en charge le contrôle de leur être, une situation paradoxale. Elle a mis en évidence l'existence d'un moi singulier, et elle a exigé en même temps que ce moi soit étouffé au profit du tout. Et de là sont nées ces dichotomies intérieures, extérieures, dedans, dehors, et ce désir accru d'authenticité. Et donc c'est vraiment dans ce champ-là, la vie intime et l'existence, que je vais me situer après ce tour de piste. Et si on peut résumer tout ce que je viens de dire, du marketing, à la vie politique, à la vie intime, on pourrait dire que de l'âge de l'apparence, on est passé à l'âge de la transparence, à l'âge de verre, où rien ne doit rester secret, rien ne doit être couvert par un voile de quelque nature que ce soit, qu'il soit le secret d'État, les conventions, la politesse, même le surmoi devrait laisser transparaître et s'exprimer le ça. Alors voilà, si je résume ce qu'on vient de dire, un tel concert à l'unisson ne plaît guère aux philosophes et aux apprentis philosophes que nous sommes. Parce que quand quelque chose devient à ce point évident et innocent, c'est peut-être que notre esprit a trop vite baissé la garde. Et qu'il faut nous interroger sur cette valeur et sur cette exigence. Alors, pour commencer, tâchons de mieux définir ce qu'on entend par authenticité. D'abord, tout simplement, l'authenticité, on l'a vu à travers mon énumération, s'applique à des objets, des sujets et des sujets. Mais on va voir que finalement la définition est à peu près la même. Tout d'abord, on peut dire que dire de quelque chose, d'un objet qui est authentique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est ancré dans son origine, qu'il est lié de manière incontestable, incontestée, à une origine, que ce soit une époque passée, une culture, un rite, une technique, la laitière, une tradition, un lieu, une personne. Et en ce sens, le contraire de l'authentique, c'est le faux, la contrefaçon, qui elle ment sur sa provenance. Il en va de même pour un sujet, une personne authentique, et c'est ça qui va nous intéresser, c'est une personne qui, comme on dit, est elle-même, c'est-à-dire réalise ce qu'elle a de propre, indépendamment des artifices, des conventions, des influences extérieures, c'est-à-dire que c'est une personne qui est à l'origine d'elle-même. Elle dit et fait ce qu'elle croit, et elle croit et fait ce qu'elle dit. Il y a une conformité, une fidélité entre ses actes, ses paroles et sa vie intérieure. Donc dans les deux cas, les objets et les sujets, il y a la même idée d'une fidélité, fidélité à une origine extérieure, ou bien fidélité à soi-même, dans le cas du sujet. Alors cette première définition d'authenticité en implique une autre, qui est liée, c'est que fort de cette origine, l'objet ou le sujet authentique ont une valeur et un pouvoir inattaquables. On ne peut pas, par exemple, défaire en droit ce qu'on appelle un acte authentique. Un acte authentique, c'est un acte qui a été opéré par un notaire, par exemple, un acte de mariage, un acte de propriété, donc il, qui a respecté des formes dans un lieu avec des la personne autorisée pour le faire. Un acte authentique ne peut pas être défait à moins qu'on en montre la nullité, mais dans ce cas-là, ça devient un faux. Donc, ce qui est authentique a une valeur, un pouvoir inattaquable. De même, l'homme authentique, c'est celui qui est pleinement maître de lui-même, qui agit de sa propre autorité, qui a l'origine de lui-même, et on loue son courage d'être soi-même, d'oser changer de vie. Et c'est amusant de noter qu'en grec, le terme « authentikos » a une connotation presque agressive et signifie précisément « avoir les pleins pouvoirs ». Être authentique, c'est avoir le plein pouvoir, être maître de soi. Donc cette fidélité à soi nous conduit à cette idée d'une valeur et d'un pouvoir. Et enfin, dernière acception de l'authenticité, la sincérité et l'honnêteté. Hein, pour une marque, pour un produit, être authentique, c'est ne pas mentir sur ses qualités. Pour une personne, c'est être de bonne foi, franche, vérace. Donc ça s'oppose à la duplicité, la dissimulation, etc. Alors ça vaut... C'est une vertu hein, transitive et réflexive, elle vaut entre les hommes et à l'intérieur de soi aussi. Donc si je reprends ce que je viens de définir, l'authenticité c'est quoi? C'est fidélité, autonomie et sincérité. Donc vous allez me dire, elle semble parfaitement insoupçonnable cette valeur. Qu'est-ce qu'on a à reprocher à la fidélité, à l'autonomie, à la sincérité? Alors, bien évidemment, il ne va pas s'agir ici de critiquer unilatéralement l'authenticité, à coup d'exemples grossiers et d'alimenter la plus grande misanthropie, ça serait possible, hein, mais on m'a demandé justement de ne pas me servir de ces conférences pour cracher sur l'époque et nous faire haïr nos contemporains. Donc je vais m'y tenir et je pense que c'est assez juste. Il va pas falloir, donc il s'agira pas ici de critiquer, de remiser cette valeur, mais il faudra quand même prendre acte du fait que l'authenticité reste en réalité dans notre époque une forme de terme purement incantatoire, qui revient sans cesse mais dont on ignore le véritable mode d'emploi. Et qu'il nous faudra ici peut-être reconstruire. J'en veux pour preuve de cette incapacité de l'authenticité à se déployer véritablement, un certain nombre de contradictions et d'impasses dans lesquelles nous fourvoyons, faute justement de la penser efficacement. Tout d'abord, ce qui saute aux yeux, c'est un premier paradoxe, c'est que l'authenticité dans notre époque côtoie le plus plat conformisme. Et alors vous allez me dire, oui, mais la recherche de l'un n'est qu'une conséquence de l'autre. Mais le drame, c'est que c'est l'inverse qui se passe. C'est la quête d'authenticité, d'originalité, qui vient nourrir le plus plat conformisme. Je m'en rends bien compte avec les élèves, souvent il y a un grand malentendu quand on commence l'année en philosophie, c'est qu'ils pensent en fait que ce cours va être l'occasion de ah mais enfin on va pouvoir penser par soi-même, je vais pouvoir dire ce que je pense. Donc vraiment ce que je pense moi, singulièrement, moi. Et puis en fait vous amusez une séance à leur laisser le champ libre, et c'est là qu'ils se rendent compte de manière tragique qu'en fait ce qu'ils pensent au plus profond d'eux-mêmes intimement, ben tous leurs camarades le pensent, et ça reste extrêmement commun. Donc voilà le premier paradoxe, c'est que trop de gens s'efforcent en fait d'être eux-mêmes comme tout le monde, et peut-être que c'est là qu'il faudra se demander si être authentique signifie simplement être naturel et spontané. Peut-être pas. Peut-être que l'authenticité n'est pas un donné, n'est pas quelque chose, n'est pas simplement une posture, ne se décrète pas, mais peut-être se conquiert. On y reviendra. Second paradoxe, jamais l'authenticité n'a été autant célébrée, et jamais la demande de reconnaissance d'autrui n'a été aussi forte. Alors, c'est pas nécessairement un échec, mais ça doit nous amener à repenser peut-être le bien fondé des dichotomies que j'ai posées tout à l'heure, intérieur, extérieur, dedans, dehors. Peut-être que l'authenticité ne peut pas ne pas passer, ne peut s'appuyer justement sur le regard de l'autre, sa présence. On y reviendra. Et dernière difficulté, l'authenticité devient un idéal qui vaut pour lui-même. C'est-à-dire que, indépendamment de ce qui transparaît, de ce qui est révélé, l'authenticité devient la valeur reine qui sauve en fait parfois les pires actions, les pires propos, et qui tourne finalement à la goujaterie. La Rochefoucauld notait assez justement dans ses maximes et réflexions. L'authenticité est une ouverture de cœur qui nous montre tel que nous sommes, un amour de la vérité, une répugnance à se déguiser, un désir de se dédommager de ses défauts et de les diminuer même par le mérite de les avouer. Comme si on était moins salaud en avouant qu'on est un salaud. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui devient un petit peu tragique dans l'authenticité. En fait, ce refus de tromper, de dissimuler, d'enjoliver, devient un nouvel artifice, devient une nouvelle séduction, et finalement, la transparence devient une nouvelle apparence, et on se prend un petit peu les pieds dans le tapis. Le naturel devient une nouvelle pose. Alors finalement, qu'est-ce qui gagne, qui est le grand gagnant dans cette stratégie? Ben c'est l'amour propre, puisque finalement c'est le moi qui réussit à se jouer de la vérité pour mieux s'affirmer. Et donc là aussi, il faudra se demander comment faire pour que l'authenticité ne soit pas une occasion de plus de nourrir notre amour propre et de conforter un moi satisfait de lui-même. Et donc mon problème, ça sera le suivant, comment faire de l'authenticité autre chose qu'un vain mot et faire en sorte qu'elle ne se transforme pas en son contraire, une nouvelle apparence ou un plat conformisme. Et à quelles conditions on peut réaliser dans l'existence humaine un idéal de cet ordre, et qu'est-ce qu'il exige s'il est correctement compris? Alors je me suis pas mal appuyé sur un livre que je vous conseille, qui est vraiment très lisible, de Charles Taylor, Le malaise de la modernité, qui reprend en fait de manière beaucoup plus succincte sa vraie œuvre, qui est Les sources du moi. C'est ça, Les sources du moi. Et justement, dans cet ouvrage, il s'attaque à l'authenticité, et c'est son exigence, se demander comment est-ce qu'on peut sauver cette valeur et comment il faut la repenser. Alors je reprendrai un petit peu de son propos. Alors je fonctionnerai en deux temps. Tout d'abord, une partie critique, où on essaiera d'identifier les mirages de l'authenticité, et puis de reconstruire enfin positivement cette notion. Alors, je suis un peu embêtée parce que dans ma partie critique, je voulais m'appuyer pas à pas sur un texte qu'il vous fallait avoir sous les yeux, et la photocopieuse est en panne, et donc je ne peux pas vous le donner. Alors, je vais essayer d'être très très claire. Mais ce texte, vous l'avez tous déjà rencontré, j'en suis sûre. Alors, dans un premier temps, comme je l'ai dit, j'aimerais me délivrer d'un certain nombre d'illusions qui concernent ce fameux moi que chacun d'entre nous est censé abriter. En fait, j'aimerais me demander tout simplement, est-ce que un tel moi singulier, tapis au fond de mon intériorité, existe? Et est-ce que ça a un sens d'y être fidèle? Alors, dans l'histoire de la philosophie, il y a un texte célébrissime qui s'interroge justement sur l'existence de ce moi, qui part à sa conquête en plongeant au cœur même de notre intériorité. Il figure dans tous les manuels de terminale, j'en suis sûre que vous l'avez déjà lu. C'est le fameux texte de Pascal, qui intitulé « Qu'est-ce que le moi ?» et que je vous lis. et que je vais essayer d'expliquer pas à pas. Qu'est-ce que le moi, écrit Pascal, si vous ne l'avez jamais lu, attention, cette lecture est décapante. Qu'est-ce que le moi ? Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants, si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir ? Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il ? Non, car la petite vérole, qui tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi ? Moi est en italique. Non, car j'ai pu perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme ? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables ? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne, abstraitement, et quelques qualités qui y fussent ? Cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Qu'on ne se moque donc pas de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. Voilà, c'est la pensée 688. Alors, on va essayer de reprendre pas à pas. Le fin mot de Pascal, c'est « on n'aime jamais personne, mais seulement des qualités empruntées ». Alors, comment est-ce qu'il en arrive là ?
Mais si je vais vous interrompre, je vois que vous dites plusieurs fois « on ». Je vois que je voudrais juste savoir si ce monsieur s'est dit sur la tête qu'il m'avait dit, en quel cas je ne le dis, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est ce que vous avez fait ? Je vous respecte, si c'est votre...
En fait, j'ai pour principe de préparer ma conférence et de l'écrire. Voilà, c'est tout. Mais oui, c'est ce que je vais faire. Donc, si vous voulez, vous. Ah non, non. En fait, c'est à la fin. Je finis au bout de la journée pour une demi-heure. Et après, il y a une demi-heure où vous pouvez poser des questions, intervenir. Voilà. Donc, c'est le format. C'est l'idée, c'est ça en fait. Que quelqu'un a travaillé en amont et voilà, fort de ce travail. Donc tout le monde ne procède pas de cette manière-là. Hein. Certains sont plus à l'aise. Voilà. Donc reprenons notre texte. Alors que fait Pascal ici ? Il parle justement à la recherche de l'identité propre de chacun en répondant à la question qui suis-je ? Et cette question, pouvoir répondre à cette question qui suis-je, nécessite de pouvoir identifier deux choses, et on le voit bien dans le texte, nécessite de pouvoir identifier une unicité, une individualité, quelque chose qui fait que je suis singulier, que je suis original, et pouvoir répondre à la question qu'est-ce qu'il y a d'unique en moi, et de pouvoir aussi identifier une unité de ma personne, unicité et unité. Pourquoi l'unité ? Parce que le paradoxe de toute personne, c'est qu'elle change sans cesse, et pourtant qu'elle ne change pas au point de devenir complètement autre. On dit bien « j'ai changé ». Et quel est ce « je » qui dit « j'ai changé » ? Il y a bien quelque chose qui est resté le même. Donc, pour qu'on ait une identité, qu'il y a un moi, il faut trouver une permanence et il faut trouver une singularité. Hein, quelque chose que j'ai en propre et quelque chose qui perdure. Donc, Pascal se met à la recherche de ces deux conditions. Alors, il va utiliser une stratégie un peu étrange, parce que vous allez me dire, il ne répond pas vraiment à la question « qu'est-ce que le moi ?» Il répond « on n'aime personne que pour des qualités empruntées ». Vous voyez, il a déplacé la question sur le terrain de l'amour. Pourquoi me regarde-t-on ? Est-ce que celui qui s'est mis à la fenêtre s'est mis là pour me voir ? Pourquoi m'aime-t-on ? Bon, étrange. Pourquoi est-ce qu'il a changé de question en cours de route ? Ben, première leçon peut-être à retenir, c'est que je ne suis peut-être pas le mieux placé pour répondre à la question « qui suis-je ?». C'est vrai que quand on se pose la question « qui suis-je ?», le premier réflexe, c'est le miroir, c'est l'introspection. C'est comme Descartes, on s'enferme dans un poêle et puis on se demande « mais est-ce qu'il y a une certitude en moi ?» Descartes se demande dans son poêle « mais qu'est-ce donc que je suis, moi qui suis ?» Réponse, une substance pensante. Bon. Mais là, Pascal, d'ailleurs, Descartes se mettait à la fenêtre hein, dans son poêle et regardait les autres dehors. Mais là, c'est nous qui sommes dans la rue, on est regardés. On n'est peut-être pas le mieux placé pour répondre à cette question « qui suis-je ?» Et c'est une première leçon infligée justement à la quête d'authenticité, c'est que ce moi auquel je veux être fidèle, je ne suis peut-être pas en mesure de le connaître seul. Alors différentes figures de l'altérité vont être convoquées. L'inconnu qui se penche à sa fenêtre, puis l'amoureux, l'amant, l'anonyme, puis le proche. Bien sûr, les deux regards n'ont pas la même acuité, la même importance. Et le texte est construit de manière progressive. On va du plus extérieur, celui qui a sa fenêtre, au plus intérieur. Le corps, l'âme, puis même, il y a ce terme étrange, la substance de l'âme, au milieu du texte. Il faudra qu'on se demande ce que c'est. Il y a comme une sorte de plongée au plein cœur de notre intériorité, comme un zoom en photographie. On va traquer le moi au plus intime, par ce jeu de questions-réponses. Est-ce qu'il est dans le corps? Est-ce qu'il est dans le... Bon. Le plan se resserre de plus en plus, et puis au final, on aboutit à quoi? On aboutit au fait que, on n'aime jamais personne. En fait, là où on cherche le moi, il n'y a en fait personne. Chaque fois qu'on croit le trouver, il s'échappe. Alors reprenons la démarche. L'inconnu. Pourquoi est-ce que l'inconnu qui se met à la fenêtre ne parvient pas à identifier ce moi? Parce que pour lui, je suis un passant comme un autre. C'est-à-dire que être passant, bon, déjà, c'est pas une caractéristique c'est pas quelque chose qui est permanent en moi, c'est accidentel. Et puis, ça ne me singularise absolument pas. Qu'est-ce qu'il voit de moi, cet inconnu? Eh bien, il voit un homme. Il voit quelque chose de très général. Je suis interchangeable. Donc, finalement, il révèle mon identité humaine, mais absolument pas mon identité personnelle. Le texte progresse, on passe à l'amant, à celui qui m'aime. Là, c'est plus probable qu'on arrive à identifier ce moi. Pourquoi? Parce que dans l'amour est la meilleure des connaissances, en fait. Il y a une grande familiarité. Hein, dans l'amour, deux égaux se rencontrent, un toi et un moi, et peut-être que justement, on va comprendre ce que l'amant... quel est ce moi que l'amant aime, justement? Hein, mettons justement nos pas dans ceux de l'amant pour comprendre ce qu'il aime. Alors... Première chose qu'il doit aimer, sûrement, ne soyons pas hypocrites, c'est un corps, une apparence extérieure. Hein, Pascal est censé, il commence par le corps et pas par l'âme, soyons sincères, hein, quand deux égos se rencontrent, c'est d'abord de ça dont il est question. Un visage, un corps, une démarche. Bon, mais c'est pas possible que ce corps soit le moi, impossible que ce soit cela que l'amant aime, parce que la beauté est une qualité passagère que le temps, la maladie peuvent ruiner. Elle est fragile. Bon, je continue d'exister, hein, malgré ma beauté, même si ma beauté est passée. Deuxième possibilité, plus crédible, on aime quelqu'un à cause de ses qualités intellectuelles et morales. La pensée, se faire aimer pour son jugement et sa mémoire, dit Pascal. C'est plus crédible, c'est même plus juste, parce que quelque part, j'y suis pour quelque chose, hein, dans ses qualités, mais là, le constat est le même, ses qualités peuvent passer, peuvent se perdre, un accident, une maladie aussi, un AVC, et voilà, je perds la mémoire, mes capacités intellectuelles sont réduites, les épreuves de l'existence peuvent rendre la personne la plus gentille du monde acariâtre. Bon. Donc, premier bilan, le moi n'est ni dans le corps, ni dans l'âme. Pascal imagine une troisième hypothèse, s'il était dans ce qu'il appelle la substance de l'âme d'une personne, hein, plus intérieure et plus intime que l'âme, il y aurait quelque chose comme la substance de l'âme. Alors, substance, c'est un mot un petit peu technique en philosophie qui désigne deux choses qui se recoupent. La substance, c'est l'essence d'une chose, c'est la nature d'une chose qui fait qu'elle est ce qu'elle est et pas autre chose. Hein, il est de l'essence d'un cercle que les points de sa circonférence soient équidistants au centre. L'essence, c'est une qualité que je ne peux pas perdre, c'est ce qui définit un être. Mais encore, la substance, c'est ce qu'on appelle le sujet, subjectum en latin, c'est ce qui se tient sous, ce qui se tient dessous, ce qui soutient les différentes modifications d'un être qu'on appelle, eux, les accidents. Les accidents peuvent apparaître, disparaître, je peux me faire couper les cheveux, bon, ça va pas modifier ma substance, si vous voulez. Mais la substance, justement, c'est ce point d'ancrage qui, dans toute chose, reste et qui orchestre les changements. Donc c'est peut-être bien ça qu'on cherche, ce jeu, hein, qui est sous le changement et qui l'oriente et lui donne une unité. Mais une fois défini de la sorte, on comprend que la substance, elle ne peut s'obtenir que par un mécanisme d'abstraction. Il faut faire abstraction des qualités accidentelles, le corps justement, tout ça, pour arriver à la substance. La substance est quelque chose d'abstrait et d'impersonnel. Et Pascal le voit bien, en réalité, une personne, quand on aime une personne, on n'aime pas une abstraction. En tout cas, ce serait injuste. Une personne, c'est toujours une réalité concrète, faite de qualités incarnées. Et l'amour ne s'attache à rien d'autre qu'à ces qualités. Est-ce que ça aurait un sens d'aimer une substance? Est-ce que, si par exemple, une déclaration d'amour de la sorte à la Descartes, oui, je t'aime parce que tu es une substance pensante, nous satisferait? Non, pas vraiment, parce que la voisine aussi est une substance pensante. Et justement, je veux qu'on m'aime pour ce que j'ai de propre, du coup, que peut-être la voisine n'a pas, et qui me distingue. Et finalement, ce qu'on aime, parce qu'elle le voit bien, cela ne se peut et serait injuste, c'est l'accident, c'est le grain de beauté, c'est le sourire, c'est la démarche, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à nous. Alors, certes, ces qualités sont passagères et communes, mais elles font toute la valeur de la personne. Et donc, on se trouve ici dans une impasse. La substance ne peut pas non plus être, eh bien, le fin mot de la quête d'identité. Conclusion de Pascal, on n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. On n'aime donc jamais un moi, mais seulement ses caractéristiques les moins essentielles, un rire, une bonne humeur, une intelligence, une beauté, un grain de beauté, bon bref. Et bien sûr, ces qualités peuvent s'altérer, et bien sûr, on peut les trouver chez les autres. Donc, notre sentiment amoureux s'en trouve quelque part dénisé, ça voudra dire qu'on pourra aimer plusieurs fois, qu'on pourra peut-être aimer plusieurs personnes. Parce que finalement, ce qu'on aime, c'est une somme, certes singulière, mais de qualité néanmoins commune. Hein, on n'aime pas quelqu'un parce que c'est lui, comme disait Montaigne en parlant de la Boétie, mais on l'aime parce qu'il est comme ceci, comme cela, et d'autres sont comme ceci, comme cela, et ces qualités pourront se perdre. Donc c'est pour ça, mais je n'ouvre pas le sujet, que faire reposer le mariage uniquement sur l'amour est une folie. Mais ça, c'est une autre question. Revenons plutôt à notre sujet. L'authenticité. Qu'est-ce qu'il y a à retenir à partir de ce texte sur cette question? Eh bien, c'est que ce moi, censé être tapis au fond de chacun, hein, qu'une vie réussie devrait s'employer à réaliser, eh bien, ce moi n'existe pas, du moins pas comme tel. L'enquête a échoué. Je le disais tout à l'heure, là où on cherche une personne, il n'y a personne, du moins il n'y a personne d'autre que les visages multiples que chacun revêt pour chacun. Et l'exigence d'authenticité qui nous intime justement d'être nous-mêmes reste peut-être bien naïve. Et ce texte rend caduc tous les discours intimistes que j'évoquais dans mon introduction, et le mythe moderne aussi de la profondeur et de l'intériorité, hein, comme on dit, la bon fond. Parfois pour excuser quelqu'un de ses maladresses extérieures, il a bon fond. Souvent les élèves disent ça, mais madame, au fond, je suis pas comme ça. Mais moi, le fond, je le vois pas. Et ce que dit ce texte, c'est que justement, il n'y a pas de fond. En fait, nous ne sommes que surface. Et finalement, il n'y a pas à opposer ce que nous sommes extérieurement pour les autres, dans nos paroles, dans nos gestes, et ce que nous sommes intérieurement, comme si il y avait un diamant brut qui subsistait et dont la vie sociale ternirait l'éclat. Nous ne sommes que surface. Et d'ailleurs, le terme « personne » est intéressant, puisque « persona » Ah ben voilà, les photocopies. « Persona » en latin, ça veut dire justement le masque. Une personne, « persona », c'est le masque que les acteurs antiques portaient sur le visage pour justement figurer une personne durant la durée de la représentation. Donc, Pascal a vu juste, une personne, c'est un masque, et il ne faut donc pas, c'est un masque, c'est une succession de masques, d'emprunts, et il ne faut donc pas non plus construire une frontière étanche entre nous et les autres, comme si les autres étaient situés à la périphérie de notre être, et constituaient une gêne perpétuelle à l'expression de soi. Non, je ne suis rien d'autre que ces masques, que ces rôles que j'emprunte, que j'endosse pour les autres, face aux autres. Dans la famille, je suis mère de famille, au bureau, employée exemplaire, avec mes amis, autre chose. Bon, bref, ces rôles nous collent à la peau. On le sent bien d'ailleurs qu'on a l'habitude de se définir par les rôles. Bonjour, je m'appelle Marie Grand, je suis professeure de philosophie. C'est quasiment le métier, c'est quasiment la réponse la plus qui vient immédiatement. Quand on cherche à se définir. Et Pascal termine en disant qu'on ne se moque pas de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. Finalement, c'est inutile et hypocrite de se moquer de la comédie sociale, parce que il n'y a pas quelque chose de plus substantiel que ça. Je me souviens avoir vu dans un immeuble une boîte aux lettres sur laquelle quelqu'un avait écrit Monsieur Trucmuche, je me souviens plus de son nom, ingénieur. Et ça m'a toujours fait rire. Et en fait, Pascal dit même, mais il n'y a pas à se moquer de cette façon de s'identifier. Si le moi est inassignable, peu importe la manière dont il s'identifie, c'est pas plus absurde de vouloir être aimé pour soi que pour son masque social, que pour le fait d'être ingénieur. Voilà, alors, je vais peut-être passer ça. Voilà, ce texte, vous le relirez. Bon, il y a, je pense que j'en ai pas dit donné le fin mot, mais nous montre en tout cas que l'authenticité et les oppositions qu'elle suppose restent une forme de mirage d'adolescent un peu attardé. Hein, l'adolescence, c'est souvent en fait en regardant les élèves que je pense à cette exigence. L'adolescence, c'est un peu comme on dit l'âge bête. Bête pourquoi ? Parce que un âge un peu radical dans son absence de compromis. Et l'adolescent, justement, c'est celui qui n'a que faire des usages et des conventions, qui estime l'authenticité pure, l'amour pur, la vérité nue. Bon. Est-ce que finalement, notre époque devrait accepter de grandir et de remiser cet idéal ? Eh bien, peut-être pas. Peut-être que si cet idéal a un sens, c'est qu'il nous faut rompre avec sa forme naïve et accepter. Bon, en tout cas, il faut que l'authenticité accepte les compromis pour cesser d'être un vain mot. Et des compromis, j'en vois de deux sortes dans ce second moment où je voudrais montrer ce qu'est quelque part l'authentique authenticité. Tout d'abord, j'aimerais montrer que l'authenticité n'est pas incompatible avec les exigences qui transcendent le moi. Au contraire, elle les appelle. Ça, c'est la grande idée de Charles Taylor dans Le malaise de la modernité. Et ces exigences qui transcendent le moi, qui le dépassent, elles sont multiples. J'essaierai d'en montrer deux, trois. Et tant qu'une frontière étanche est installée entre le moi et le monde, l'intériorité restera un pur mythe et l'authenticité une posture. Ça, c'est ma première idée. Et ma seconde idée, c'est que j'aimerais montrer qu'il faut distinguer authenticité et spontanéité. L'authenticité n'est pas un point de départ, mais bien l'objet d'une conquête et d'un travail. Alors, ma première idée, donc, que l'authenticité n'est pas incompatible avec les exigences qui transcendent le moi. Une des premières exigences qui transcendent le moi, c'est bien l'autre. Ce qu'a montré Pascal, c'est assez juste. Le moi n'est jamais vierge de tout contact avec autrui. Il n'y a pas de moi séparé, autonome, extérieur et antérieur au monde social. Et qu'il faudrait retrouver dans sa nudité par un souci de fidélité. L'individu humain n'est pas un pur commencement. Et sa relation aux autres n'a pas de commencement. On est toujours déjà imprégné des autres. Et l'autre n'est pas nécessairement un obstacle, mais bien qu'il gomme à notre singularité, mais peut-être bien celui grâce auquel je construis justement ma singularité. Le moi peut-être le plus intime se forme précisément dans la relation à l'autre. Et c'est ce que montre Norbert Elias dans le livre que j'indiquais tout à l'heure, La société des individus. C'est que la société, c'est la grande idée de ce livre, est un facteur d'individuation. Il veut dire quoi ? Il veut dire que l'enfant n'est qu'un projet d'individu, qui contient une foule d'individualités possibles, et ce qu'il adviendra, ce qu'il deviendra, la forme qui sera la sienne, ne dépend pas uniquement de sa constitution interne donnée au départ, mais bien du fonctionnement des relations entre lui et les autres. Et donc, il est assez illusoire, dit Elias, d'imaginer qu'on posséderait une sorte de nature intérieure qui précéderait la vie sociale, comme un donné de départ. Puisque, en réalité, le donné de départ qui préexiste chez tous est très indifférencié. Il est composé il n'y a qu'à regarder les enfants, les nouveau-nés, il est composé de pulsions et d'instincts primaires et finalement assez communs. Et c'est l'apprentissage social, c'est l'éducation qui va nous permettre, en contrôlant et en modifiant nos pulsions, de les réorienter de la manière dont on souhaite, de les dégrossir et de leur donner une direction, de se les approprier. Et sans empreinte sociale, nous restons évidemment communs. Il n'y a qu'à voir finalement combien les enfants sauvages se ressemblent et se comportent de la même manière. Donc l'identité, nous ne sommes pas d'emblée nous-mêmes. Et nos aspirations les plus personnelles sont finalement forgées par certaines institutions, la famille, l'école. Et la construction de l'identité est dialogique. Norbert Elias écrit « C'est l'ordre de ce réseau permanent qui ne commence nulle part, c'est l'histoire de ces relations qui font la nature et la forme de la personne. Même sa solitude, même ce que l'individu ressent dans son intériorité, reçoivent l'empreinte de cette histoire, l'empreinte du filet des relations dont il est l'un des nœuds, et au sein duquel il vit et accède à son individualité. » Et ce dialogue est ininterrompu. Il ne dure pas seulement le moment de l'apprentissage, de la formation, mais toute la vie. Adulte, cette conversation avec les autres se poursuit. Et d'ailleurs, il faudrait un effort considérable et des ruptures amères pour empêcher ce que nous aimons de modeler notre identité. Ça serait absurde. Hein, même les disparus, même les morts prennent place dans ce dialogue qui se continue à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ce que Charles Taylor montre bien dans le malaise de la modernité, puisque lui aussi donc prend en charge cette question d'authenticité, c'est que l'authenticité nécessite un langage commun de l'identité. Si chaque personne a bien une façon singulière et particulière d'être homme, il y a un langage commun de l'identité. Il veut dire quoi par là? Il veut dire que je cherche toujours à définir ma singularité en fonction des autres, parfois par opposition avec eux, et mes sentiments et mes désirs, ce que je veux être, ne sont pas un principe suffisant pour me définir. En fait, il y a des définitions de soi, dit Charles Taylor, qui ne font pas sens. Par exemple, dire, je reprends ces exemples, que je suis la personne qui a 3792 cheveux sur la tête, ou encore que je suis le seul homme à mesurer la même taille qu'un arbre des plaines de Sibérie, n'a aucun sens. Je ne peux pas décider que la performance la plus significative de l'existence soit quelque chose d'aussi dérisoire. D'ailleurs, c'est toujours ce qui m'a fait rire quand j'étais petite, je sais pas si vous avez feuilleté des livres des records, où justement, des individus cherchent à apparaître, cherchent à se distinguer par une performance totalement insolite. L'homme aux ongles les plus longs du monde, je me souviens de ça. Ou l'homme qui a couru un marathon sous l'eau. J'ai trouvé ça. Mais ce que justement Charles Taylor montre, c'est que si je cherche à me définir de manière plus crédible comme quelqu'un qui joue du piano en virtuose, ou quelqu'un qui fait revivre les traditions du passé, ou quelqu'un qui a le goût de la vérité, bon ça c'est un peu trop général quand même, mais là vous voyez, c'est des définitions de soi qui font plus sens. En réalité, pour se définir soi-même, il faut répondre, dit Charles Taylor, aux questions et aux attentes qui comptent. Et ces questions et ces attentes, je ne les définis pas seules, et justement, elles ont l'autre les définit, et l'autre est toujours cet arrière-plan d'intelligibilité, cet horizon à partir duquel je vais construire mon identité. Et Taylor montre bien que la culture contemporaine de l'authenticité, justement, prétend s'affranchir de ces horizons. et glisse par là vers le relativisme. C'est-à-dire que n'importe quelle différence va pouvoir être exhibée et justifiée, pas parce qu'elle fait sens, mais parce qu'elle est choisie. En fait, le fait de choisir une option donne de la valeur à l'option parce qu'elle est choisie. Le choix justifie tout. Mais dans ce cas, ce qui vaut que pour moi ne vaut rien et l'option retenue perd toute signification et devient un simple caprice. Il applique ça notamment à la question de la sexualité. Et la liberté se transforme ici en arbitraire. Et il faut admettre qu'il y a d'autres critères de sens au-delà du simple fait de choisir, des horizons à partir desquels on s'identifie. Donc voilà pour le premier point. L'authenticité n'a de valeur que si elle renonce à ses formes les plus égocentriques et narcissiques, et pour cela, elle doit accepter de rompre avec cette dialectique de l'intérieur et de l'extérieur, et accepter que l'autre joue un rôle dans cette construction. Et j'aimerais montrer que non seulement l'autre, mais peut-être aussi les conventions, les masques que la vie sociale nous fait endosser, peuvent se révéler essentiels dans cette recherche d'authenticité. Alors je voulais évoquer deux types de conventions. D'abord le langage et puis la politesse. Je vais laisser tomber le langage parce que ça m'intéresse moins en fait. Je vais juste, puisqu'on n'a pas le temps, pas trop le temps, je vais juste parler de la politesse parce que j'aime bien cette idée. Alors, la politesse passe, pourrait-on, l'artifice par excellence. La parure des parures, si on est capable d'habiller les pires actions, de cacher les pires intentions. Pour les adolescents, pour mes élèves, c'est l'inauthenticité par excellence, puisqu'elle a l'apparence de la vertu. Hein, et un salaud poli, si vous voulez, n'est pas moins ignoble qu'un autre, et peut-être même il l'est davantage. Puisque si on se dit qu'il est poli, ça veut dire qu'il bah, il a été éduqué et qu'il aurait pu être autre. Et la politesse est perçue comme un cérémonial vide et inessentiel, et il serait préférable, souvent me disent les élèves, que le moi se montre dans sa vérité, peut-être est-il haïssable, comme dit Pascal, mais qu'il se montre nu, finalement, ça serait sa première vertu. Mais là, à défaut d'être vertueux, on mine la vertu. Et la Bruyère disait assez justement, la politesse fait paraître l'homme au dehors comme il devrait l'être au dedans. Et de la politesse à la morale, finalement, il y a bien une différence de nature. La politesse, c'est un cérémonial extérieur qui finalement agite le corps, alors que la vertu, la morale, c'est une cérémonie intérieure toute concentrée dans l'intention. Et cette intention dont la politesse n'a que faire, hein, puisque seule la forme compte. Kant, Emmanuel Kant résumait assez bien la situation dans un texte qu'on va lire, lui qui a montré que voilà, une action bonne, c'est une action totalement vertueuse, c'est une action qui n'est pas simplement conforme à ce qu'on devrait faire, mais dont l'intention est bonne. Kant disait que la politesse, c'est une monnaie de papier ou encore une petite monnaie, hein, vous voyez, donc, auquel il manque la valeur. Hein, c'est une contrefaçon quelque part. Comme un faux sac Vuitton. Et celui qui la prend pour de l'or véritable, dit Kant, n'est qu'un enfant. Mais pourtant, Kant lui-même, ce même Kant, hein, si rigoureux quant à la nature de l'action morale, nous met en garde dans le même texte et dit la chose suivante. Toutefois, il est préférable d'avoir en circulation de la petite monnaie que de ne disposer d'aucun moyen monétaire, et au bout du compte, elle peut en tout cas, quand bien même c'est avec une perte considérable, être converti en or pur. C'est pas dans le texte. Hein. La distribuer comme s'il s'agissait du simple jeton dépourvu de toute valeur, c'est une haute trahison pratiquée contre l'humanité. La politesse, donc cette petite monnaie, cette monnaie de papier, pourrait devenir de l'or pur. Veut-il dire par là que l'apparence de la vertu pourrait nous conduire à la vertu? Que l'inauthenticité la plus manifeste pourrait nous conduire à l'authenticité. Alors, lisons justement ce passage que j'ai extrait, dont j'ai extrait la citation, et que j'ai coupé et que je vous ai mis dans après le texte de Pascal. Considéré globalement, écrit Kant, les hommes sont d'autant plus des comédiens qu'ils sont davantage civilisés. Ils prennent l'apparence de la sympathie, du respect des autres, de la décence, de l'altruisme, sans pour autant tromper qui que ce soit, parce qu'il est entendu pour tout le monde que rien n'est ici conçu du fond du cœur. Et en fait, il est très bien qu'il en aille ainsi dans le monde. Car dans la mesure où des hommes jouent ces rôles, les vertus dont ils ont ainsi simplement, pour un certain temps, produit l'apparence, se sont peu à peu véritablement éveillées et s'intègrent dans leur disposition d'esprit. La courtoisie est une manière apparente de se mettre au niveau de quelqu'un qui rend aimable. Les courbettes, compliments, et toute la galanterie des courtisans, y compris les plus brûlantes assurances verbales d'amitié, ne correspondent certes pas toujours précisément à la vérité. Aristote, mes chers amis, il n'y a pas d'amis. Pourtant, il est vrai aussi qu'elles ne trompent personne, parce que chacun sait ici à quoi s'en tenir, et aussi surtout parce que ces témoignages initialement vides de bienveillance et de considération conduisent peu à peu à des dispositions d'esprit qui sont véritablement de cette espèce. Alors je m'arrête là, je lirai la suite après. Kant en fait est plus malin que les adolescents. En fait, il voit plus loin et il montre que finalement la politesse comme cérémoniale vide et inauthentique peut conduire à la vertu, car ce qui est en jeu dans ce texte, c'est quoi ? C'est, comme il le dit, l'éveil de la vertu. En fait, il y a une question épineuse, c'est comment apprend-on à être vertueux. Comment devient-on vertueux? Est-ce qu'on saute à pieds joints dans une intention bonne? Par où on commence dans la morale? Mais vous voyez, l'enfant n'a pas de morale. Est-ce qu'il faut leur faire un cours sur le bien, sur la justice? Improbable. Kant le remarque dans ses réflexions sur l'éducation, il dit « C'est peine perdue de parler de devoir aux enfants ». Mais par le fait que les hommes jouent ces rôles, les vertus, dont longtemps ils prennent que l'apparence concertée, s'éveillent peu à peu et passent dans leur manière. Tout commence donc par la soumission au jeu normé des apparences, à l'usage du monde, par des interdits. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Fais pas ci, fais pas ça. Mais pourquoi ? Ben parce que ça ne se fait pas, ben parce que ça ne se dit pas. Tout commence, si vous voulez, par des règles, sans fondement autre que des conventions, sans justification autre que l'usage et que le respect des usages, des règles de politesse, comme si l'usage était antérieur à la valeur, comme si l'imitation était antérieure au devoir, comme si finalement les bonnes manières précédaient les bonnes actions. Et on ne voit pas vraiment comment une authentique morale qui portera plus tard le chiffre de la personne et dira toute son intériorité, peut émerger si ce n'est par le biais de ces jeux de rôles successifs. Bien sûr, quand on sera moral, il faudra intérioriser cela, il faudra fonder ce qui n'était qu'une cérémonie extérieure. Mais qui serait devenu vertueux si on avait exigé d'emblée cela? Personne, sans doute. Aristote le voyait déjà dans l'Éthique à Nicomaque, il nous disait que un cours sur la justice n'a jamais rendu personne juste, c'est en pratiquant les actions justes qu'on devient soi-même juste. Et l'habitude est première, et l'imitation est première. En imitant l'homme juste, le phronimos, celui qui n'imite pas seulement la vertu, mais en possède la justification, la comprend, en l'imitant, on devient peu à peu juste, on s'habitue à la vertu. Et dire s'il te plaît, dire pardon, c'est faire semblant de respecter, c'est faire semblant de s'excuser, mais ces masques, aussi inauthentiques soient-ils, quelque part nous modifient peu à peu et s'incrustent petit à petit pour donner forme à notre visage. On finit finalement par ressembler à ce qu'on imite. Et donc la politesse conduit ainsi à la vertu. Bien sûr, il y a un piège possible, et Kant le voit bien, c'est à la fin du texte que je finis. L'apparence du bien chez d'autres hommes doit avoir de la valeur à nos yeux, car de ce jeu de dissimulation qui suscite la considération sans peut-être la mériter, doit bien pouvoir finir par naître quelque sérieux. Seule l'apparence du bien en nous-mêmes doit être effacée sans pitié, et le voile sous lequel l'amour-propre dissimule nos infirmités doit être arraché. Le problème, c'est que certains d'entre nous finissent par ne se montrer aux autres et à eux-mêmes qu'à travers la vitre des bonnes manières. C'est-à-dire que cette politesse, ils finissent par la prendre un peu trop au sérieux et il s'y croit, elle devient quelque part dupe d'elle-même. Et finalement, ils ne parviennent plus en eux-mêmes à distinguer l'apparence de la vertu réelle. Et donc, elle devient une sorte de stratégie qui ne nous fait jamais arriver pleinement à la vertu, puisque le savoir-vivre ne sera jamais complètement la vie. En confondant pour soi vérité et apparence, eh bien là, peut-être, la politesse dégénère en hypocrisie et gêne l'accès à la vertu. Mais pour qui ne se prend pas justement au jeu de cette apparence, la politesse reste certes une vertu vide, mais elle est justement ce vide dont on a besoin pour commencer petit à petit à se remplir de vertu. Parce que, j'aimerais terminer sur cette idée, on ne saute jamais à pieds joints dans l'authenticité. Cette fidélité à soi se construit peu à peu, en passant par les autres, en passant par les formes extérieures, dont j'ai donné un exemple, la politesse, mais on pourrait parler d'autres codes, comme le langage. Donc par des formes qui nous sont imposées. Et il faut accepter justement de se compromettre avec ces exigences qui transcendent le moi et qui le soutiennent. Il faut accepter de porter des masques pas tout à fait ajustés, en tout cas pas d'emblée. Pourquoi ? Ben parce que Pascal avait raison, le moi est d'abord rien, et cela n'a pas de sens à dire qu'on a réalisé ce qu'on est vraiment si on est d'abord rien. Et on est habité d'emblée par une forme de néant, de vide. Et ce vide peut être, alors Pascal ne le dit pas, là je trahis sa pensée, mais c'est peut-être notre notre liberté qu'on a à construire, c'est-à-dire que le paradoxe, enfin la caractéristique de l'homme, c'est que il existe d'une façon un petit peu spéciale. Nous ne sommes pas comme cette table est une table. Nous avons à être, nous avons à construire notre existence. Nous n'avons pas reçu d'emblée la personne que nous sommes, mais nous avons à la construire. Ce vide, cette absence, ce néant qui habite le moi est une chance. C'est finalement le prix de notre liberté. Et cette construction de soi, cette conquête de ce que je suis, alors n'est pas totalement arbitraire, c'est ce que j'ai voulu montrer, elle ne va pas à l'aveugle, en solitaire, on décide pas d'être n'importe quoi. Donc ça devient caprice, ça devient arbitraire. Elle prend appui sur justement ce qui soutient et ce qui dépasse le moi. Elle prend appui sur des situations, sur un donné, sur des rôles, sur des règles, qui sont des appuis et non pas des obstacles. Et justement, ceux qui sous-estiment ce travail patient qui soutient l'authenticité véritable risquent précisément de tomber dans le conformisme. Ceux qui pensent qu'il suffit d'être naturel ou spontané pour être authentique risquent, et c'était ça le paradoxe que je voyais en introduction, d'enrayer, de bloquer cette construction humble et patiente de soi-même, d'en rester soit un moi très pauvre, finalement d'exhiber que des pulsions, que des instincts, que des pensées très communes que tout le monde a, qui ne sont pas vraiment ce qu'ils veulent être, ou alors risquent de s'identifier définitivement à l'un des masques d'emprunt, mon travail, ma passion, mon caractère, mes défauts. Enfin, moi je suis comme ça. Et confondre authenticité et spontanéité, en voulant réaliser d'emblée ce qu'on est, c'est, comme dira Sartre, être sincère, mais de cette sincérité qui est de mauvaise foi, parce qu'elle prétend pétrifier le moi dans une de ses possibilités. Je suis prof de philo, je suis colérique, je suis moi, je suis impatient. Alors que le propre du moi, c'est d'être ouvert à un perpétuel projet. Je suis certes ce que j'ai fait, ce que je fais, mais je suis plus. Je suis les rôles que j'emprunte ne sont pas rien pour moi, mais ils ne sont pas tout. Je peux en changer, je peux être autre. Il faut être justement fidèle à ce plus qui nous constitue, à cette ouverture toujours possible. Être fidèle quelque part à ce néant qui nous habite et que Pascal avait bien identifié et qui nous impose justement de ne jamais nous résumer, de ne jamais nous enfermer dans dans un masque que l'on emprunte temporairement. Et la véritable authenticité, justement, n'est pas coïncidence à soi d'une conscience satisfaite, mais arrachement perpétuel au mensonge, à l'esprit de sérieux, au rôle qu'on joue, et arrachement à soi. On a à conquérir celui qu'on est. Alors, et non, cette conquête ne se fait pas arbitrairement. Mais ce que je voudrais défendre, et ce sur quoi je voudrais conclure, c'est que l'authenticité n'est pas une posture, elle ne se décrète pas. Tant qu'on la décrète, elle reste, on sombre dans le conformisme. C'est un effort, c'est un travail. Et d'ailleurs, on le pressent bien, c'est un travail qui ne s'achève jamais, on le pressent bien qu'il est très difficile finalement de sortir des formules vagues quand on cherche à donner un nom à ce que l'on croit être profondément. Parce qu'on sent que toutes les réponses qui pourraient nous définir ont quelque chose d'incomplet, ont quelque chose de dérisoire, que ce qu'on est vraiment est un peu toujours, un peu de cette réponse, mais un peu toujours au-delà, et que le moi s'échappe échappe toujours, comme dans le texte de Pascal. Et ce qu'il y a finalement de plus authentique, ce à quoi il faut être authentique, eh bien justement, c'est à cette incomplétude qui nous habite et qui est notre liberté. Voilà, je terminerai sur cette idée. Donc merci à ceux qui ont supporté ma lecture. Voilà, je sais pas s'il y a des questions, des points qui n'ont pas été clairs. Comment ?
Alors je vais le faire comme ça.
Allez-y.
Je suis assez d'accord sur l'idée que c'est conclusion sur l'hypnose. Et alors c'est d'accord, parce qu'on est toujours culturel. On n'y arrivera jamais.
C'est-à-dire ?
Si l'authenticité est une construction, ce que je crois, si on se propose de se construire, de se conquérir, que notre vie soit vraie, on a aucune chance d'y arriver.
Mais pourquoi ?
On sera toujours trompé par soi-même.
Mais pourquoi ?
Parce que sinon, ce processus supposerait précisément d'être déjà achevé.
Ah, justement, ça suppose de rompre avec cette idée que.